voici. Le journal, demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour,
bonsoir.
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 Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Mmh.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Ah,
bonsoir.
On nous entend. Bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Mais comme on n'est pas tout à fait prêt et aussi eut égard aux circonstances, on va commencer par une petite chanson de Chumbawamba qui s'appelle
The Day the Nazi Die.
Et oui.
The Day the Nazi Die.
Attention, c'est court, ça dure qu'une minute.
On dit qu'on n'est pas entièrement prêt, c'est aussi qu'on n'a pas encore la chanson, quoi.
So at the last of the war, the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Was Hess remained imprisoned in the fascists they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize.
So why did they all come out of the woodwork
on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats.
They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride.
And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et donc ?
Et donc, la nappe de brève partait pas, mais parce que petit problème de manipulation. Et du coup, donc, je suis le seul à avoir des brèves, si j'ai bien compris. Et donc, en bref, Jean Messia, le sinibre...
Ça t'arrache la gueule de dire ça.
Jean Messia, la sinistre bouse qui avait créé une cagnotte pour le flic qui avait tué Naël, est un tocard. Bon, ça, voilà. Mais en plus d'être un tocard, c'est un gros... Ah, on a un problème de... C'est juste la lumière qui... Ok. En plus d'être un tocard, c'est un gros loser. Il était candidat sous les couleurs de Reconquête dans la mince chez les riches, la Anneuilly vs Neuilly sur Seine, je sais plus exactement comment s'appelait sa circo, mais il a réussi à échouer deux fois, c'est-à-dire qu'il a lui-même échoué à avoir un score à peu près correct, puisqu'il a fait 4,16 dans ce quartier quand même, dans ce coin de gros bourgeois de merde. mais qu'en plus de faire 4,16, il a réussi à faire échouer l'autre candidat d'extrême droite, à qui il manquait seulement 2,5%, et qui a donc échoué à passer au deuxième tour, laissant, si je dis pas de bêtises, Ensemble et les LR normaux avoir la prime du deuxième tour. Je vais me calmer sur la musique des brèves, je me rends compte que c'était un peu fort. Sinon, on savait que Bardella était pas bon à l'oral, notamment depuis ses brillants efforts pour redécorer l'amphi N de Tolbiac, normalement. Mais on a appris hier et du coup aujourd'hui qu'il n'était vraiment pas bon à l'oral et que du coup, il refusait de discuter avec Marine Tondelier. La direction de BFM Télé, qui était censée animer ce grand débat, a pas fait preuve d'un grand courage, puisque elle a elle-même suivi la demande de Bardella en disant qu'elle voulait que ce soit un parti majoritaire du nouveau Front Populaire, sachant que pour eux, du coup, ce parti majoritaire, ça voulait dire le PS ou LFI. Deux partis qui ont refusé, puisqu'en fait, dans leur accord, ils avaient dit que c'était chacun son tour. Et il y a déjà eu débat avec LFI, débat avec le PS. Et du coup, c'était au tour des Verts. Et ils se sont tenus à leur accord, ce qui, pour une fois, on va pas s'en plaindre. Et du coup, il n'y aura pas de débat. Et ce soir, on aura le droit à trois interventions séparées sur BFM, les unes après les autres, avec chacun des candidats, puisque Bardella a peur de débattre avec Marine Tondelier.
Il semble que Marine Tondelier soit à peu près capable de parler des dossiers correctement, ce que Bardella n'est pas.
Il n'est pas capable de parler de grand chose si on en croit le Canard Enchaîné de ce matin, qui lui met quand même une moyenne, c'était pas dans mes brèves, mais qui lui met une moyenne de 2,5 à sa L1 de Géo, je crois. Mais là où on voit qu'on n'a pas tous la même vie, c'est que pendant qu'il avait 2,5 à sa L1 de Géo, il était payé 2 SMIC et demi pour un mi-temps à l'Assemblée nationale. Quelque part, on le félicite pour cette réussite, parce que finalement, c'est notre rêve à tous d'être payé 2 SMIC et demi pour un mi-temps.
Et c'est l'heure de la rubrique Monde de merde.
Ah oui, tout à fait. C'était un peu galère de trouver des informations. Alors, des personnes m'ont soufflé dans le bureau où on prépare les informations de parler d'une information dont tout le monde se fout. Pourtant, elle vaut cher. C'est où est la flamme olympique, hein. Vous vous en foutez. Tout le monde s'en fout. Mais quand même, je vais vous le dire. Elle est dans le Pas-de-Calais et elle passera dans la même journée dans cette ville, donc Calais, pour la maudite somme de 180 000 euros qui a été payé par le département. Voilà. Autre information dont on peut se foutre un petit peu, mais je vous la raconte quand même, c'est un sexagénaire qui s'était lancé dans un trafic un peu particulier, celle du gel hydroalcoolique frelaté. Voilà, 4 ans d'enquête ont été nécessaires pour le débusquer. Enquête qui ont débuté le 7 mai 2020 en pleine crise Covid. Des policiers suspectent des activités irrégulières dans un bar. Ils découvrent alors un trafic de gel hydroalcoolique ne respectant pas les normes. Le gars a été mis en examen ce lundi. Voilà. Et on a des nouvelles de l'état de santé de Jean-Marie Le Pen. Elle se dégrade sérieusement. Alors, si on peut se réjouir de cette détérioration, on peut regretter sa concomitance avec la tenue de son procès le 30 septembre prochain. Des experts jugeant son état incompatible avec sa présence à l'audience pour détournement de fonds européens de 2004 à 2016 tout de même, cité à comparaître avec 26 autres membres du FNRN. Ils sont accusés durant toutes ces années d'avoir employé des assistants et assistantes qui ne travaillaient pas réellement sur les bancs du Parlement européen, mais qui en réalité travaillaient pour le parti. Alors au moins, eux travaillaient, ce qu'on peut soulever, alors que les eurodéputés, eux, brillaient par leur absentéisme au Parlement européen.
On peut faire une petite précision en plus. Donc il était sous curatelle, je crois, il était sous tutelle parce qu'il est en train de devenir complètement zinzin.
Ah, tu veux dire qu'il aurait pu se présenter comme député?
Oui, il avait le niveau pour débuter dans l'Aude ou dans la Somme, enfin bon, voilà. Et du coup, par contre, c'est en partie Marine qui avait récupéré la curatelle, et il y a des infos comme quoi elle en aurait profité pour vendre le domaine de Montretout. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait Marine Le Pen, la grande défenseuse de... Non, je voulais dire a grandi dans au domaine de Montretout, donc qui est un espèce de un château du je sais pas du 15e siècle, enfin, un truc un peu auquel on n'est pas habitué de grandir dedans. Et du coup, elle l'a vendu alors que ça fait partie des trucs qu'elle n'était pas censée pouvoir faire, et elle s'est fait de 2,5 milliards, je suppose, ou 2,5 millions, je sais pas combien ça peut valoir ces trucs. Mais voilà, même en famille, ils arrivent à se trouver les moyens de se faire des coups de traître.
Canu Info. Du mercredi.
Eh bien écoutez, puisqu'on est dans le marinisme... on va parler de ça. Depuis le score du RN aux européennes et depuis que cette espèce de méchant cinglé de Macron a dissous l'Assemblée nationale, les racistes se lâchent. Et ça passe par des agressions verbales, par des menaces, des insultes. Mais ça passe aussi par des vrais pétages de plomb, des tabassages, des histoires avec des armes en tout genre. Alors Mediapart a fait un petit recensement. Bien sûr qu'il n'y a pas tout, parce que bien sûr que tout ça n'est pas du tout centralisé quelque part. Visiblement, on dirait qu'ils ont demandé à SOS Racisme et qu'ils ont aussi épluché un peu la presse. Avec cette méthode, qui est un peu comme d'aller à la pêche, ils ont quand même déjà trouvé 30 agressions depuis le 9 juin. Moi, je vais encore écrémer dans leurs 30 agressions. Je vais vous en raconter juste quelques-unes qui sont un peu représentatives. Parce que ça, c'est ce qui se passe avant leur vraie victoire. Mais on peut craindre que lundi prochain au matin, voire dimanche soir, alors soit ils auront tout gagné et ils perdront les rares limites qu'il leur reste, soit ils auront gagné moins que prévu et en plus de la force qu'ils se sentent quand même, ils auront aussi la frustration de ne pas tenir vraiment les rênes du pays pour faire leur saloperie à grande échelle. Bref, on risque de vivre quelques journées, voire quelques semaines difficiles sur le modèle de ce qui suit. Allez, c'est parti donc pour une série d'histoires moches. Alors, à Bourg-en-Bresse, j'ai la date.
C'est pas la peine de préciser, c'est à Bourg-en-Bresse, c'est bon, l'histoire est assez moche comme ça.
Non, je vais quand même. Ça va être rapide. Hein. Le 1er juillet se tenait une séance au tribunal de Bourg-en-Bresse avec des images vidéo qualifiées par Mediapart de glaçantes et insoutenables. À chaque coup porté par Maxime, 25 ans, et Adrien, 23 ans, la tête de la victime heurte la vitre de la porte avec fracas, puisque Mourad, qui lui avait 37 ans, lui, il avait simplement demandé du haut de son balcon aux deux jeunes hommes qui sortaient d'un restaurant et qui étaient bourrés comme des coins, de baisser d'un ton. Et là, ils lui ont dit « descends, sale bougnoule ». Lui est descendu, effectivement, et il s'est fait exploser la gueule. Il reçoit une pluie de coups et de nombreuses insultes racistes. On est en France. Nique sa mère les bougnoules. Maxime et Adrien, qui par ailleurs avaient déjà fait chier la serveuse du bar où ils étaient et qui était asiatique, Maxime et Adrien ont été condamnés à 4 ans de prison, dont un avec sursis quand même. Alors tout n'est pas aussi violent que cette histoire, il y a aussi de simples agressions verbales gratuites en pleine rue. Par exemple, une vidéo qui est tirée d'un compte X sur Twitter, des images qui montrent une femme qui porte un voile et qui se fait brancher par quelqu'un dans la rue. C'est insupportable, il va falloir l'enlever, c'est anti-France, cet islam est incompatible avec la France. Alors la nana qui fait insulter lui dit qu'elle est née en France. Il continue en disant l'invasion migratoire et l'invasion de l'islam, on n'en peut plus, vous êtes une ennemie de la France. Voilà, ambiance. Il y a aussi des pétages de plomb qui sont vraiment des sortes de coups de folie, quoi, du genre qui arrive le plus souvent quand les gens sont mal ou quand les situations sont tendues, et qui reflètent souvent les obsessions collectives. Le 1er juillet, dans un village des Cévennes gardoises, le village s'appelle la Grand Combe, un homme a passé la nuit, ma foi, à se balader dans les rues de cette commune, fusil à la main, en tirant plusieurs coups de feu, a priori en l'air. Selon plusieurs témoins, il vociférait des propos du type « à mort les Arabes » et il a été interpellé au petit matin. Alors voilà, j'en passe, des tags par ici, des agressions de militants, militantes, colleuses d'affiches par là, des trucs plus structurés comme cette soirée que le maire de Rouen a réussi à faire interdire et qui devait s'intituler Ausländer raus, ce qui veut dire les étrangers dehors en allemand. Ça se tenait dans un bar identitaire. Alors c'est pas pour dire que parce que c'est en allemand c'est plus nazi, mais enfin si quand même, en l'occurrence c'est vraiment exactement ça. Et puis des trucs qui cumulent un peu tous ces éléments, sauf le truc plus structuré, comme cette histoire. Le 25 juin à Thiers, dans le Val-de-Marne, un chauffeur de bus en service pour le ramassage scolaire a été victime de menaces de mort et d'insultes racistes par un automobiliste qui était garé sur la place réservée au bus. Le gars lui dit « J'en ai marre des gens comme vous, Bougnoul et Renoir, moi je vote RN, je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais vous éradiquer. » Ça c'est ce qu'a raconté une source policière qui était interrogée sur France Info. Et l'automobiliste, après avoir dit tout ça, bah ma foi, il est remonté dans sa voiture et il est allé et il a foncé dans le chauffeur à qui il a, semble-t-il, pété les jambes. Alors, en sachant bien que dans la plupart de ces histoires que raconte Mediapart, il est fait mention de Zemmour, de Bardella ou du RN. Encore celle-là, tiens, le 24 juin à Rouen, en marge d'une manifestation contre l'extrême droite, un individu s'en est pris à des manifestants en tenant plusieurs propos racistes et homophobes, selon les témoins cités par Le Progrès, dites donc. Il a parlé des bicots et a laissé entendre qu'il en avait ras-le-bol des Arabes. Il a ensuite donné un coup de poing à l'un d'eux avant d'être laissé libre par la police municipale. Et puis, il est finalement quand même interviewé plus tard après avoir tapé une autre personne qui, elle, sera hospitalisée. Ou alors, du bien plus flippant, après une fête locale à Lunel, un jeune homme de 19 ans raconte avoir été suivi par une voiture avant qu'elle ne s'arrête à son niveau et que 4 personnes, dont une avec un couteau, le frappent à la tête. Du coup, il témoigne, 4 hommes m'ont ensuite saisi les bras et les jambes et m'ont jeté dans le canal, puis m'ont plongé la tête sous l'eau de force. Ils ont fait ça 4 ou 5 fois, tout en me traitant de sale arabe. « Tu n'as rien à faire ici », criait-il. Il disait que je venais de Jihad City, en faisant référence à Lunel. La victime a eu 7 jours d'ITT. Voilà, c'était une petite série de choses... ouais.
Et pas plus représentatives de l'ambiance. Qu'hier soir, à Calais, c'est Utopia 56 qui a fait remonter l'info. Et c'est une personne qui a volontairement percuté à plusieurs reprises un groupe d'exilés, donc hier soir. Un homme a été percuté à 2 reprises et a été transporté à l'hôpital.
Canu Info.
Alors vous en avez certainement entendu parler, mais ça vaut quand même le coup d'en parler ici. Amar, un jeune SDF, avait trouvé refuge dans le garage d'un pavillon. Son malheur, en plus de ne pas avoir de logement, de galérer et de trouver de la thune en vendant des cigarettes, c'est qu'il est tombé sur un garage qui appartenait à une vieille dame, mais surtout son petit-fils travaillait dans la police. Et donc elle a décidé de l'appeler quand elle a vu que son garage était occupé. Son petit-fils, ravi de venir aider sa grand-mère, déboule pour arranger la situation et décide de tirer à 7 reprises sur ce jeune SDF. Le policier en question était hors de service, pas du tout, mais était en dehors de ses heures de travail, donc hors service, pardon. Ce qui pose encore une fois donc la dangerosité de cette mesure, les autorisant à porter leur arme tout court, hein, on peut le voir à multiples reprises, mais aussi en dehors de leurs heures de boulot. Et comme une ordure ne se trouve jamais seule, ses petits camarades d'Actu 17, site d'Actu fait part et pour les flics, ont titré « Squatter mortellement neutralisé ». Donc c'est comme ça qu'on parle de crime dans la police. La famille d'Amar a décidé de porter plainte pour crime raciste.
Canu Info. Du mercredi.
Et du coup, qui veut présenter la... Enfin, c'est la chanson, hein, si j'ai bien suivi.
Ah, la chanson. Ah, alors, vas-y. Alors du coup, on va mettre une chanson de la Brigada Flores Magón, donc groupe étendard de la lutte antifasciste, on pourrait dire. Alors pourquoi on le met ça ce soir? C'est parce que on a appris la mort de Julien, qu'on appelait Julien Brigada, c'est pas son nom de famille, mais c'est en référence au nom de son groupe, qui était le batteur de ce groupe, et qui, on peut dire, à part faire de la musique que nous on aime bien, il a notamment beaucoup milité au sein de la CNT, où il a organisé plusieurs congrès, etc., où il était le secrétaire national pour plusieurs congrès, et puis il avait aussi monté un bar à Paris, le Saint-Sauveur, qui était un haut lieu de l'antifascisme, là où se retrouvaient les antifascistes pour boire des coups, et il a donné du sien dans la lutte contre les fascistes dans la rue, et là c'est un petit peu avant qu'il risque d'arriver au pouvoir qu'il est mort de manière assez ironique. Voilà, on peut envoyer la musique. Ça y est, on va changer de thématique. Parce que pendant les élections, le réchauffement climatique continue et on pourrait ne pas s'en rendre compte ici vu le temps de merde et que je dois rallumer le chauffage chez moi tous les 3 jours alors qu'on est en juillet. Mais ailleurs c'est chaud. Et quand je dis chaud, et ben par exemple, au Mexique, c'est assez chaud pour que 150 personnes soient mortes directement de la chaleur depuis le mois de mars à cause de la canicule qui touche le pays. 30 nouveaux décès ont été enregistrés entre le 13 et le 18 juin, selon le bilan hebdomadaire du ministère de la Santé mexicain. Il y a eu plusieurs vagues de canicule pendant cette période, depuis le mois de mars. Pendant la troisième vague qui a débuté au mois de mai et qui dure encore, plusieurs villes ont battu des records de température, des records depuis qu'on enregistre des températures. En plus des décès, on compte aussi 2567 personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital pour des problèmes de santé liés aux températures naturelles extrêmes, comme ils disent, depuis le 17 mars. Et puis, il n'y a pas que les humains à mourir de chaud, puisque on a retrouvé les cadavres de au moins 164 singes hurleurs qui, a priori, sont morts de ça aussi dans les forêts du Chiapas et du Tabasco. Des perroquets, des toucans et des chauves-souris ont également passé l'arme à gauche à l'occasion de cette vague de chaleur. Ça, c'était le Mexique. Au Pakistan, avant-hier, trois personnes sont aussi mortes directement de chaud. Elles sont venues s'ajouter aux 46 qui étaient déjà décédées à cause de la chaleur depuis le 21 juin. À Karachi, la plus grande ville du pays, la température est montée à 39,2 degrés. Alors comme ça, on peut se dire, on les a déjà vécues, mais la température ressentie était de 55 degrés. Alors ça, c'était pas précisé dans l'article, mais pour qu'il y ait une aussi grosse différence, ça veut très certainement dire qu'il faisait extrêmement humide. C'est ça qui rend la chaleur bien plus mortelle. Dans l'Arctique, pendant ce temps, l'Arctique, on peut se dire tranquille pour la chaleur. Et bien dans l'Arctique, ça crame, incendie partout. Au nord du cercle polaire, depuis le début du mois de juin, la toundra et les forêts boréales ont... wow. La toundra et les forêts boréales ont commencé à être ravagées par les flammes, libérant 6,8 mégatonnes de carbone enfouies dans le sol. Carbone égale gaz à effet de serre. Le phénomène s'entretient lui-même. Aux yeux des scientifiques d'un truc qui s'appelle Copernicus, au fur et à mesure que progresse le changement climatique, ces incendies saisonniers se déplacent vers le nord et les répercussions de ces évolutions concernent l'ensemble du système terrestre et pas du tout uniquement le pôle, puisque l'Institut Copernicus nous dit ce qui se passe dans l'Arctique n'y reste pas. Les changements dans l'Arctique amplifient les risques au niveau mondial pour chacun et chacune d'entre nous. Bon, au Brésil aussi, ça brûle. La plus grande zone humide du monde est en flammes. Le coin s'appelle le Pantanal, c'est à l'ouest du pays. Et cette fois-ci, alors c'est pas uniquement le changement climatique qui est en cause. Alors oui, là-bas il fait chaud, il fait bien plus chaud, il fait bien plus sec que les normales saisonnières. Mais il se trouve qu'il y a aussi, c'est le Mexique, c'est les particularités locales. Dans les particularités locales du Mexique, les petites choses pittoresques, il y a l'agro-industrie. L'agro-industrie et en l'occurrence les très grands éleveurs bovins. Des gens qui, ma foi, trouvent que c'est pas parce qu'ils sont déjà des très grands éleveurs qu'ils pourraient pas devenir des très très grands éleveurs. Et du coup, ils ont besoin de plus de terres pour faire paître leurs bestioles avant de les massacrer et de les envoyer dans vos kebabs. Et pour ça, ma foi, cramer des endroits qui ne sont pas encore des prairies, c'est non seulement un bon moyen de les remplacer par des prairies à bovins, mais en fait c'est aussi un bon moyen de... Ils ont tout un système de propagande avec des médias qui sont bien sûr qui appartiennent à l'agro-industrie réellement et qui expliquent partout que les bovins sont la solution contre les incendies. Puisque les incendies les bovins bouffant tout sur leur passage, il n'y a plus rien à brûler après. Alors que par ailleurs, des gens qui ne sont pas ces médias, mais qui sont plutôt des scientifiques, notent que dans ces régions à bovins, les incendies se propagent plutôt beaucoup plus vite qu'ailleurs. Bon voilà, le bon côté des choses, c'est bien sûr que pour voir les choses du côté positif, c'est que partout sur la planète, c'est des gouvernements qui prennent au sérieux le problème du climat qui sont élus. Par exemple, en France, les gens ont voté massivement pour un parti dont le programme écologique tient en un seul principe qui va tout changer, produire français. Ah, pardon, j'ai oublié, c'est vrai qu'il y a un deuxième principe qui va aussi tout changer, mais qui pour le coup sert pour tous les problèmes, et mettre les immigrés dehors.
Radio... Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit...
Petite erreur de générique.
J'ai été un point trop loin.
Alors, on va donc faire des infos sur le Kurdistan et on attend un petit générique pour...
Une musique de fond.
Un petit peu, une musique de fond, voilà. Et c'est mieux.
Tout à fait, c'est ça.
Le terme précis, c'est ça.
Il commence pas sa chronique sans...
Bah, sans cette musique de fond, c'est plus difficile. Mais bon, si la musique de fond arrive à 21h30...
Mais par exemple, s'il n'y a plus Laurent Delabouze, c'est parce que tu crois qu'il n'y a plus de... On a le générique de Laurent Delabouze, hein. Tu peux te relancer. Je veux dire, on avait quand même deux tours un peu exceptionnels. Hein,
Laurent Delabouze est fatigué, il est parti en vacances.
Est-ce qu'on annonce sa mort en direct ou...
Non, il est pas mort, il est parti en vacances. D'accord. Il a fait un burn-out, il reviendra.
D'accord.
Bon, je vais le faire sans.
Non, c'est qu'on avait un petit problème, j'avais pas dit que le son était coupé.
Voilà, c'est. Eh ben, j'ai. Ah, bah voilà. Très bien, parfait. Alors, je commence avec le sud de Kurdistan, au nord de l'Irak. Depuis avril, la Turquie intensifie ses attaques et ses bombardements contre la guérilla du PKK. en collaboration avec la zone autonome kurde de Barzani et du gouvernement central irakien. Mais dans ces régions, il n'y a pas seulement la guérilla du PKK, il y a aussi des habitants kurdes. On estime que près de 600 villages sont menacés par ces bombardements. La Turquie essayant d'évacuer tous les habitants qui n'ont pas encore fui pour pouvoir plus facilement ravager la région sans retenue et priver les combattantes et combattants des ressources que les villageois qui soutiennent la guérilla pourraient leur fournir. Ensuite, on va partir en Turquie. Et là, même en France, on en a parlé. Alors que les Kurdes alévis commémorent actuellement le massacre des alévis brûlés vifs par des islamistes nationalistes turcs le 2 juillet 1993, de nouveaux pogroms ciblent cette fois les réfugiés syriens dans plusieurs provinces de la Turquie depuis 3 jours. Les lynchages de réfugiés syriens ont débuté le 30 juin après des allégations de viol d'une fillette syrienne par un homme lui aussi syrien, apparemment de sa propre famille. Si les violences des populations nationalistes turques ont débuté à Kayseri, ville de l'est du pays, elles se sont rapidement propagées dans une dizaine de villes, jusqu'à même Istanbul. Des groupes armés avec des drapeaux turcs et des slogans racistes ont pourchassé des Syriens armés de battes, de bâtons, brûlé des maisons et des magasins. Le nationalisme turc, partie intégrante de la culture du pays, exacerbé par Erdogan pour unifier son peuple, notamment contre les Kurdes, semble être un des principaux responsables de ces événements. En réaction à ces événements qui ont eu lieu en Turquie, des manifestations ont éclaté dans les régions syriennes sous occupation turque et des affrontements ont eu lieu avec les gardes turcs qui ont fait 7 morts parmi les manifestants. Alors ce qui est intéressant malgré l'horreur de la situation, c'est le récent rapprochement entre le président turc Erdogan et Bachar el-Assad. Les nouvelles relations entre les deux présidents ennemis de toujours sont en train de plonger dans la confusion les mercenaires islamistes syriens payés par la Turquie pour contrôler des zones de peuplement turc et qui avaient pris les armes contre Bachar el-Assad. Alors ça y est. Il a... donc ça a effectivement, de ce rapprochement, ça a donné lieu à des affrontements entre ces mercenaires syriens payés par la Turquie et les forces armées turques. On s'attend donc à encore plus de tensions dans les prochains temps dans les régions du nord-est de la Syrie. Malgré tout, cette situation pourrait profiter aux Kurdes du Rojava, dont l'administration autonome et autogestionnaire profite de cette situation pour proposer l'organisation d'un congrès national en Syrie, tablant sur le fait qu'ils pourraient essayer de s'organiser avec les ennemis de leurs ennemis. Dans leur appel à tenir un congrès national pour la libération de tout le peuple syrien, les Kurdes, et attention, hein, quand je dis les Kurdes, c'est une grossière généralité de ma part, puisqu'il s'agit du Conseil démocratique syrien qui autogère la région du Rojava avec le concours de toutes les populations locales, dont les Kurdes y sont en majorité. Le Conseil démocratique syrien, donc, précise qu'il soutient tout mouvement politique qui cherche à briser les lois de la soumission et à garantir l'autonomie. Il dit encore que le dialogue national est le seul et unique moyen de surmonter nos souffrances et de faire reconnaître internationalement l'opinion du peuple syrien. Le Conseil démocratique syrien appelle donc les forces politiques syriennes à co-organiser ce congrès national qui serait la base de la libération de la Syrie.
Et tu parles pas du tout du joueur de foot turc ?
Si, qui a fait un salut nazif, hein, qui a fait le
geste des loups-gris avec
le buteur, le buteur de, effectivement, le buteur qui a marqué 2 buts, je crois, dans le match de la Turquie contre
l'Autriche,
a fait le salut des loups-gris, donc l'extrême droite turque, dont le but est d'éradier, de tuer tous les Arméniens, Kurdes et tout ce qui n'est pas turc.
Et on a fini. Ah, c'est le moment de l'agenda. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a principalement dimanche 7 juillet à 20h30, place de la République. En gros, si vous savez pas trop quoi faire un peu avec toute cette actualité, venez donc manifester donc dimanche à 20h30 place de la République. Il y a un appel qui tourne à se rassembler. Je vous lis rapidement un peu le communiqué, parce qu'il n'y a pas moyen, parce que les racistes sont toujours là, parce que s'organiser devient autant plus une nécessité vitale, parce que la rue nous appartient, parce qu'ensemble tout devient possible, parce que peut-on avoir espoir en François Hollande, parce que le fascisme ne s'essaye pas, parce que la police tue, parce que l'homophobie est bien présente, parce que se lever aux aurores pour 1 600 euros, ce serait encore indécent, parce que les JO, parce que leur loi sur l'immigration et leur délire colonialiste, parce qu'aucun mot ne sera jamais assez vaste pour qualifier nos colères, mais aussi pour ne pas subir seuls chez nous, et parce que nous devons prendre la mesure de ces 12 millions de personnes votant à l'extrême droite, nous montrer conséquentes face à la séquence politique actuelle et garder la certitude que, quel que soit le résultat final de cette mascarade, nous devons prendre la rue et lutter contre les lois racistes et réactionnaires qui seront défendues par le prochain gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Alors rendez-vous dimanche 7 juillet à 20h30, place de la République à Lyon.
Alors, il me semble que l'appel est à 20h30, mais que les gens se sont dit que le résultat étant à 20h, la manif ne partirait probablement pas avant 21h ou 21h30, donc si vous êtes un peu en retard, n'hésitez pas à venir quand même.
C'est ça, et pour avoir été dans quelques-unes, l'ambiance est assez multiple dans ces manifs. Je veux dire, ça vaut quand même le coup. Si vous êtes un peu flippé des ambiances de manifs qui cassent tout, c'est pas que ça qui se passe. Enfin, je veux dire, il se passe vraiment plein de trucs dans ces manifs où ça vaut le coup d'aller y jeter un œil assez facilement.
D'autres agendas ?
Ah non.
Eh ben, on va conclure comme ça.
C'est très certainement notre dernier Canu Info avant la pause estivale.
Tu veux dire que ça est la pause estivale ?
C'est la pause estivale, ouais. Tout à fait, pour nous.
Du coup,
on vous laisse avec...
avec l'été.
Avec un été de merde, a priori.
Ou pas, hein, peut-être que ça commence canicule dans 15 jours.
Soit de merde, soit vraiment de merde.
En fait, ce sera de merde de toute façon, mais ouais. Juste, ce sera dans quel sens c'est de la merde. Au revoir.
Voilà, et ben en tout cas merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc en septembre et bon courage à vous.
Bon été malgré tout.